Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième cours sur Maurice Zindel et la question de la souffrance chez Zindel. Au cours de ces séances, nous nous appliquerons à écouter Zindel nous parler de ce thème en reprenant certains passages de ses conférences qu'il a pu donner à travers l'Europe. Aujourd'hui, il s'agira pour nous d'écouter Zindel lorsqu'il donna donc une conférence en Angleterre, à Londres, le 16 février 1964, où il évoque dans cette conférence la grandeur de l'homme et la pauvreté évangélique. C'est un peu le titre qu'il donne à sa conférence, au cours de laquelle il évoquera d'une façon explicite la question de la souffrance de Dieu. Donc nous essaierons, au cours de cette séance, d'évoquer ce thème, de l'aborder, de le travailler, la souffrance de Dieu qui permet donc de donner un sens, si l'on peut dire, à la souffrance de l'homme. Il faut regarder, étudier, observer, écouter ce que l'Écriture sainte nous dit de cette souffrance de Dieu dans le Fils unique de Dieu qu'est Jésus-Christ, cette personne de la Trinité qui nous aide à entrer dans ce thème donc de la souffrance. Tout d'abord, aborder donc, voici un petit peu le déroulement de notre séance pour essayer d'avoir des points précis hein, pour nous acheminer dans ce thème de la souffrance de Dieu. Tout d'abord, Zindel évoque un aspect important pour lui qui est celui de la relation. On ne peut comprendre un thème comme la souffrance que dans un rapport interpersonnel, dans une écoute, dans une relation entre personnes pour aborder ce sujet, essayer de le cerner, de le discerner et d'en donner un sens. Cette relation, pour Zindel, se fait sous deux angles. Tout d'abord, la référence à la Trinité sainte, à Dieu, qui est non pas un Dieu monothéiste replié sur lui-même, mais un être défini comme relation pure, absolue, infinie, cette relation entre le Père, le Fils, l'Esprit-Saint. De ce point de définition de la divinité, Zindel évoque sur le plan humain cette relation à partir d'exemples qu'il prend, l'exemple de saints et en particulier l'un d'entre eux qui lui tient à cœur précisément dans l'étude de ce thème, relation souffrance, et celui donc de François d'Assise. Zindel se rapporte également, et c'est ce que nous aborderons plus en détail, l'expérience que tout homme est appelé à faire, et il prend l'exemple d'une mère qui a tissé tout au long de sa vie une relation particulière avec son fils qu'elle a vu se conduire dans une totale déchéance sans aucune relation à Dieu, une mère qui, tout au long de sa relation avec son fils, a éprouvé, vécu cette douleur, cette souffrance vis-à-vis de son fils, et comment elle s'est unie à son fils pour, et à Dieu lui-même, pour permettre à celui-ci de s'ouvrir, de naître, de sortir de cet état. Alors, nous pouvons ici évoquer d'autres figures connues de l'histoire chrétienne, en particulier en la personne de Monique, sainte Monique, la mère d'Augustin, mais un d'elles s'applique à prendre des exemples qui le concernent en tant que prêtre. Et donc nous essaierons de voir comment cette souffrance est évoquée chez un d'elles sous trois angles: la souffrance liée au corps, à l'âme et à l'esprit. Tout d'abord, interrogeons-nous sur la question du mal. Le mal existe, il fait scandale, comme nous le savons, qu'il soit provoqué par des cataclysmes naturels, qu'il résulte des carences ou des égoïsmes humains. Le mal, surtout comme il frappe les innocents, suscite toujours étonnement et indignation. Au sentiment de la fatalité s'ajoute celui de la révolte. Nous pouvons nous interroger: pourquoi le mal? Pourquoi la souffrance? À qui la faute? Dieu serait-il le responsable tout désigné du mal qui survient dans notre monde? Et ce sont des questions qui habite sans cesse le cœur de l'homme, sa conscience, et la raison ne peut se satisfaire de réponses tirées d'une philosophie. Donc nous n'ignorons pas ni la réalité du mal, qui donne à la création son visage de violence et de détresse, ni le réflexe spontané d'un besoin de comprendre qui, faute d'explication, en rejette la responsabilité souvent sur le Créateur. Si Dieu est bon, comment se peut-il qu'il y ait le mal, la souffrance? C'est une question à laquelle Zindel va s'appliquer de répondre. Dieu est effectivement par nature infiniment bon, et il est celui qui subit la souffrance et le mal. Il est la première victime du mal. Il est atteint dans sa personne par le mal. Et la personne de Dieu, c'est Jésus Christ, vrai homme dans la plénitude de son être, qui est exemple de toute souillure du péché et qui est pour autant atteint par ce mal. Il est donc Dieu victime de ce mal. Le chrétien ne saurait s'en tenir à une attitude, donc, vis-à-vis de Dieu, de procès. C'est dans la révélation qu'il puise les assurances en mesure d'apporter les réponses au scandale du mal. C'est en portant son attention sur Jésus, la personne du Christ, qui donne sens au mal. Cette réponse, il faut la chercher donc dans la foi au mystère du Christ, Fils de Dieu, victime innocente sur la croix du péché des hommes. Cette présence du mal est donc une évidence. Le mal existe. D'où vient-il ? Nous venons de dire que Dieu est infiniment bon et toutes ses œuvres sont bonnes. Cependant, personne n'échappe à l'expérience de la souffrance, des maux dans la nature, maux M-A-U-X, qui apparaissent comme liés aux limites propres des créatures et surtout à la question du mal moral. D'où vient le mal? Le mal physique et le mal moral de la conscience. Saint Augustin disait « Je cherchais d'où vient le mal et je ne trouvais pas de solution. » À sa propre quête douloureuse, ne trouvera d'issue que dans sa conversion au Dieu vivant. Car le mystère de l'iniquité ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère de la piété. Nous retrouverons ce lien entre souffrance, mal, le sens et la piété lorsque nous évoquerons l'attitude de la mère à l'égard de son enfant. Cette connaissance de cette femme, connaissance profonde du mal qui rongeait son fils de l'intérieur. La révélation de l'amour divin dans le Christ a manifesté à la fois l'étendue du mal et la surabondance de la grâce. Nous devons donc considérer la question de l'origine du mal en fixant le regard de notre foi sur celui qui est le vainqueur du mal. Donc il n'y a pas de réponse rapide à cette question du mal. Il faut s'y approcher avec cette ouverture, cette écoute, cette étude dans l'épaisseur de l'humanité, en proie au mal, à la souffrance. Entrer dans cette épaisseur d'humanité, non seulement le domaine physique, l'approche phénoménologique du mal, mais aussi dans la profondeur de l'âme, du mystère qui anime, agite le plus intime de l'homme. Donc il y a le mal physique qui tient au devenir d'une création en marche vers sa perfection. Se distingue le mal moral qui tient au péché et qui est bien sûr plus grave. Présent dans l'histoire de l'homme, depuis les origines, le péché a envahi et inondé le monde. Il est universel. À cette présence universelle du mal et du péché dans la création, on a cru fournir des explications. L'une a recours à la dualité de deux principes qui s'oppose depuis le commencement et que l'on trouve dans les philosophies, qui est ce rapport entre la lumière et les ténèbres, le mal et le bien, le dualisme. Un tel dualisme n'est pas compatible avec la foi au Dieu créateur. Il ne faut pas le confondre non plus comme plus avec ce que l'Évangile nous apprend de celui que Jésus désigne comme le père du mensonge. Donc le mal en soi n'est pas ce dualisme, mais bien une personne identifié comme le père du mensonge, Satan. Jésus est donc celui qui nous montre comment ce combat contre le mal s'opère. Il est vainqueur du mal et cette victoire du mal et celui et celle de l'amour que le Père a pour toute créature. En épousant dans son cœur humain l'amour du Père pour les hommes, Jésus les a aimés jusqu'à la fin, jusqu'au bout, nous dit saint Jean. Jésus est celui qui, dans son humanité, a porté son regard sur la faiblesse humaine. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Jésus porte en son cœur d'homme, dans cette humanité qui est sienne, il porte dans son cœur en permanence l'amour que Dieu a pour ses créatures. Il prend sur lui les souffrances de l'homme, toutes les souffrances, pour l'offrir, pour les offrir au Père. Le sens que l'on donne, que l'on est amené à donner de la souffrance est rendu possible par une observation, par une écoute, par une confrontation, une communion avec le Christ. Dieu se porte à la rencontre de l'homme. Zindel, donc, nous rappelle dans cette conférence de 1964 l'importance de considérer Dieu comme un être de relation. Il nous dit, un monothéisme solitaire aboutira toujours pour nous à ce scandale, car un Dieu qui se regarde, un Dieu qui s'aime, c'est un Dieu qui n'a aucune espèce de ressemblance avec ce que nous appelons les vertus, la grandeur, la sainteté humaine, où justement toute la valeur de la vie vient de ce que l'on ne se regarde pas, mais qu'on ait toute attention aux autres et tout élan vers les autres. Ici, Zindel s'appuie donc sur, pour donner un sens, définir ce qu'est Dieu, il s'appuie sur une valeur universelle, celle qui habite, qui constitue la personne humaine, quelle que soit son origine, sa culture, sa religion, qui définit la valeur de la vie de l'homme, précisément cette attention portée aux autres. C'est ce qui définit universellement l'homme, ce qui doit être recherché à temps et à contre-temps. Une attention aux autres, un élan vers les autres. Et c'est précisément ce qui, au plus profond de nous-mêmes, nous anime. Il y a une aspiration. Une personne seule, solitaire, meurt. Cette aspiration que l'homme a au plus profond de lui-même pour tisser des liens, pour s'ouvrir aux autres, souffre de ce mal dont nous avons évoqué. Ce mal qui consiste à se replier, à se séparer, à se faire égal de Dieu. Qui comme Dieu? L'auteur du péché, le prince du mensonge, Satan, s'interpose depuis l'origine entre le Créateur et la créature. Nous voyons ici se dessiner le mystère de la souffrance, le sens à donner à la souffrance, au mal moral. Satan s'interpose entre le Créateur et la créature, alors que la créature, tout être, est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image de l'homme est précisément image de la Trinité sainte, c'est cette relation qui est l'essence même de l'être humain sur le plan ontologique, ce qui définit notre être de personne créée à l'image de Dieu, c'est notre capacité de nous ouvrir, de communiquer, de dialoguer, d'établir une relation. Nous sommes donc image et ressemblance de ce Dieu trinitaire. Mais nous avons perdu cette ressemblance, c'est-à-dire qu'il faut rétablir cette relation telle qu'elle se vit au sein de la Trinité. Ressembler à Dieu, la ressemblance, c'est vivre de cette relation, de cette ouverture totale, se donner totalement le bonheur, la joie, la plénitude est dans le don de soi. Le contraire, le repli, le fait de se recentrer sur un point, c'est précisément la douleur, la souffrance. Libérer de ce mal et des conséquences du mal qu'est la souffrance, c'est favoriser, développer en nous cette capacité d'ouverture, être à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi Zindel fait le rapprochement entre ce qu'est Dieu, un être de relation, défini comme tel, tout ce qui est au Père est au Fils, tout ce qui est au Fils est au Père, dans l'union hypostatique que l'Esprit-Saint atteste, signifie. La valeur de la vie, donc, vient de ce que l'on ne se regarde pas, dit Zindel. Les vertus, la sainteté, précisément, c'est dans cette ouverture à l'autre, un élan vers l'autre. Le monothéisme chrétien est un monothéisme trinitaire. Dieu est unique, mais il n'est pas solitaire, nous dit Zindel. Ce qui fait donc une grande différence avec une approche d'un monothéisme défini en son temps par des philosophes comme Nietzsche, qui considérait Dieu comme cet être suprême dont la suprématie était un poids pour lui. Comment considérer que Nietzsche, que l'homme ne pourrait pas être lui aussi Dieu ? Un monothéisme donc trinitaire. La connaissance est suspendue entre cet élan que nous appelons le Père et un autre élan que nous appelons le Fils, dans un dépouillement infini. La connaissance de soi n'est possible que dans un regard vers un autre. Pour Zendel, Dieu est une expérience. Il n'est pas une somme théologique, une somme de concepts qui le définit d'une manière systématique. Il n'est pas exclusivement le produit d'une connaissance théologique abstraite. Pour Zendel, sans renoncer, sans écarter le fruit d'une connaissance théologique tirée de l'Écriture sainte, Zendel définit Dieu à travers une expérience mystique. Pour connaître Dieu, il faut rejoindre, s'identifier, se conformer à son être propre qui est don dans un dépouillement infini. Cet élan que nous appelons Père, cet autre élan que nous appelons Fils, un élan entre deux êtres qui définissent, qui constituent cette Trinité. Un don infini qui est un dépouillement pour Zendel. Le Père ne se possède pas. Il ne se cultive pas selon son propre être de Père. Il existe, le Père, dans cette relation infinie avec le Fils et le Fils de même. Il n'y a pas de contenu. La définition de cette Trinité, c'est dans un mouvement, un élan, une ouverture, un don total. Ad intra, c'est-à-dire au sein de la Trinité, le rapport des trois personnes entre elles, et ad extra aussi. C'est-à-dire que Dieu n'est pas un être replié sur lui-même. Ce qu'il est en lui-même, ad intra, cette relation personnifiante du Père et du Fils et de l'Esprit, se projette d'une manière absolue, continuelle, sur la création. Et dont nous sommes participants, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes constitués sur le plan de l'être, ontologiquement, selon ce principe absolu qu'est la Trinité. Cette capacité que nous avons, cet appel à nous donner. Zendel parlera de ce « moi oblatif », c'est-à-dire ce qui me définit personnellement comme une personne humaine, c'est un moi qui se donne. Un moi oblatif ou un moi origine. Tendre vers une image et ressemblance totale. Tant que dure notre vie, nous acheminons. Mais notre destinée, notre vocation, qui commence dès ici-bas, comme créature, personne humaine, créée, image et ressemblance, ne s'accomplira pleinement que à la fin des temps, quand tout sera rassemblé par le Christ, une unité totale, tout rassemblé en Dieu. Tant que dure la vie, eh bien nous cheminons, et notre origine, elle est devant nous, disent-ils d'elle, elle n'est pas derrière. Il ne s'agit pas de regarder en arrière pour observer Jésus il y a 2000 ans et comment il a fait. Notre origine est devant. Voilà la connaissance dont définit Zindel. Connaître, nous dit-il dans sa conférence, c'est naître. Connaître, c'est naître. Une naissance à nous-mêmes, dans un autre et pour lui. Nous ne pouvons jamais nous connaître authentiquement que dans ce regard qui nous suspend à un autre. Nous ne pouvons jamais nous connaître authentiquement ce que nous sommes que dans le regard qui nous suspend à un autre. L'attention que je porte à mon prochain, à la personne qui se présente à moi, qui souffre, dans le cas de la femme dont nous évoquerons, lui donne une connaissance de ce qu'elle est authentiquement. Un être de relation qui, dans cette relation, par la foi qui l'anime, reconnaît le Christ, sauveur de l'homme, du mal, du péché. Ce qu'on appellera dans le langage de la vie spirituelle, l'affliction que j'ai lorsque je vois le mal œuvrer. Cela ne me laisse pas indifférent. J'éprouve moi aussi une douleur, une souffrance de voir l'autre souffrir. Dieu est la souffrance de Dieu, qui n'est pas une souffrance physique. C'est cette souffrance de voir l'autre souffrir. En Dieu, la connaissance n'est pas un regard sur soi. La connaissance est un regard vers un autre. Toute la lumière divine, toute la joie divine est reconnue par la communication que le Père en fait au Fils et que le Fils en restitue au Père. C'est-à-dire que l'acte de connaître subsiste en Dieu, jaillit en Dieu sous forme de désappropriation, non pas sous une forme de possession où l'on s'accroche à soi, où l'on se fixe en soi, où l'on s'enivre de soi, mais sous forme d'une totale, absolue, éternelle désappropriation. lâcher prise. Je communique mon être. Le Père communique son être au Fils, sans le retenir, sans le posséder, sans en faire un moi possessif. Le Père communique éternellement, totalement, son être au Fils. C'est cette désappropriation dont parle Zindel. La connaissance de Dieu n'est donc pas une possession, mais une dépossession. Comment puis-je connaître Dieu? Comment puis-je savoir que Dieu souffre, si prenons le thème de la souffrance? Je ne peux le comprendre que dans la mesure où j'épouse ce mouvement de don, d'ouverture. Je communie au mystère qui se déploie dans la vie du Christ. Le Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, ce que nous dit la foi. Il nous libère de l'emprise du mal, du péché, en mourant sur la croix, mais cette mort du Christ s'actualise continuellement, constamment. Le Christ ne cesse de se donner le mémorial de sa passion, de sa mort, de sa résurrection n'est pas un mémorial symbolique dans la foi catholique. C'est l'actualisation du mystère. Il se donne au Père aujourd'hui à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, que nous obéissons à l'injonction du Seigneur, faites cela en mémoire de moi. Concrètement, le Christ prend sur lui nos péchés, le mal qui agit encore dans cette humanité qu'est la nôtre, pour l'offrir au Père. Et nous sommes rendus participants de cette offrande que le Christ adresse au Père. Nous en sommes participants soit quand nous sommes libérés de notre propre mal, le mal moral, libération. Nous sommes comme pris, emportés, incorporés au Christ. Nous pouvons aussi en être témoins lorsque nous entrons dans cette relation à celui ou celle qui est pris par ce mal. Rejoindre le Christ dans le don qu'il fait de sa personne à travers nous. Vivre en chrétien alter Christus, ce n'est pas être celui par lequel la grâce est donnée. Alter Christus, c'est communier à l'œuvre rédemptrice du Christ, la connaissance dont nous parle Zindel, la connaissance de Dieu dans l'expérience d'une relation avec l'autre, le frère. C'est ce qu'aura la femme dans cette relation à son fils. La prière, la patience, la supplication qui conduira ce fils à se convertir. Zendel, ensuite, après avoir présenté Dieu comme un être de relation, ce monothéisme trinitaire, s'appuie sur l'expérience, le témoignage, plus précisément, d'un témoin, témoin reconnu par l'Église comme témoin de la foi, cette expérience que fit François d'Assise, qui pour Zendel est le plus grand des théologiens. C'est comme ça qu'il le définissait. En reprenant donc l'expérience de fondation, si on peut dire, de sa vocation, la rencontre du lépreux, l'insouciance de François dans sa jeunesse, cultivant son égo, cet égocentrisme centré sur cette prééminence du moi et le moi possessif, de posséder les richesses, de vouloir mener une vie chevaleresque, ce moi possessif qui laissera la place à ce moi oblatif. Lorsqu'il, comme nous le savons, descendant de son cheval, donna une pièce à ce lépreux dans sa main, et lui donnant ce baiser à un lépreux sale, ayant perdu toute sa dignité, cette humanité en proie à l'absence totale de dignité, une image déformée de cette créature faite, créée à l'image de Dieu. Une pièce d'or et un baiser qui sera donc pour lui, pour François, le début d'une profonde conversion, et qui pour Zendel est un modèle, ce dépouillement, cette expérience qu'il fit, cette rencontre de ce qu'il nommera donc la dame pauvreté, s'appliquer à tout donner, non pas par contrainte, une pauvreté forcée, mais une pauvreté de l'être, dans le dépouillement total, cette désappropriation totale, pour rejoindre précisément celui qu'il rencontra dans la personne du lépreux, Jésus. Jésus au cœur de cette humanité, à l'un de ces petits qui sont mes frères, à qui vous avez donné un verre d'eau, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand vous êtes venu me visiter en prison, me vêtir, c'est à moi que vous l'avez fait. François voit, comprend, saisit le mystère de la présence de Dieu au cœur de cette humanité souffrante. Jésus infiniment présent à l'homme pauvre. Et François s'est appliqué ensuite à construire une maison. Alors, c'est là, symboliquement, l'église Saint-Damien, où le Christ lui demande de relever les murs de sa maison. Ce sera non seulement l'image de l'Église que François verra dans cette restauration, mais toute la création entière. Restaurer cette création. En prendre soin. Parce que Dieu est infiniment présent à cette création en proie au mal physique. L'homme étant au sommet de cette création, Dieu lui a conféré ce pouvoir de prendre soin de cette création. Zindel dira que, en reprenant l'image de ce lépreux et de l'expérience que fit François d'Assise, Zindel dira qu'il faut détacher Jésus de la croix. Toute notre obligation, notre devoir à l'égard du Christ est précisément de le détacher de cette croix. De prendre soin du pauvre, du malade, de prendre soin de la création. Tant que dure le monde et que le mal est à l'œuvre, le mal physique, le mal moral, Jésus est crucifié. Nous rappelons que la mise en croix de Christ, dont nous allons dans quelques jours commémorer, c'est nous qui l'avons cloué sur la croix, pas simplement les Juifs, mais toute personne qui, se laissant mener par la logique de la mort, du péché, cloue le Christ en croix. Et donc, notre devoir est de le libérer. Nous voyons ici combien l'Église encourage toutes les recherches, pouvons-nous faire une petite parenthèse, les recherches pour soulager la souffrance pour soigner les malades et non pour leur enlever la vie. Toute l'œuvre de l'homme devrait consister à soulager la vie blessée et aussi, dans ce thème de la souffrance de Dieu, soulager, libérer le Christ. Dieu est la première victime du mal. Pour Zindel, il n'est aucunement responsable du mal, mais la victime. Nous retrouvons ici ce thème de la piété. C'est déjà l'heure. Ah non, il reste encore une demi-heure. On poursuit. Il y a une analogie, nous dit Zindel, entre la sainteté humaine et la sainteté divine. Si Dieu nous appelle au dépouillement, c'est parce qu'il est le dépouillement. Le lavement des pieds a sa source dans la Trinité. La sainteté divine et la sainteté humaine, donc, sont liés. Ce que Dieu est en lui-même ad intra et ce se prolonge, se dit ad extra qui atteint l'homme le porte à vivre selon le principe de Dieu qui est le dépouillement. Et il parle, Zindel, de cette respiration intérieure. La respiration de la vie intérieure. De celui qui, dans son humanité, s'applique à vivre selon la vie de Dieu. Son principe, il s'identifie cette respiration intérieure, c'est cette oblation que l'homme est appelé à vivre dans cette relation à l'autre. Respiration intérieure, celle de François d'Assise, qui, après avoir embrassé ce lépreux, reconnaît la présence du Christ et transforme son être. Il y a un élan qui se produit en lui, un mouvement intérieur. une ouverture qui va le porter jour après jour à vivre cette pauvreté matérielle et spirituelle. S'identifier au Christ, donner sa vie, ne rien posséder, tout donner à l'image et à la ressemblance du Christ. C'est ça, cette respiration intérieure. La respiration des vertus. Quand un être, une personne se porte à ma rencontre et qu'elle vit précisément cette respiration intérieure, j'en suis bénéficiaire. Le soi en lui est un don fait à l'autre, et que c'est la seule manière d'aboutir à la liberté, la seule manière d'être source, espace et créateur. La vérité vous rendra libre, dit le Seigneur. La liberté, c'est l'exercice, c'est le déploiement, c'est la dilatation de l'être intérieur, de l'âme, cette respiration intérieure qui s'opère dans le don total, cette désappropriation de moi-même, cette désappropriation qui est non pas inhérente à ma volonté propre, une désappropriation qui épouse le mouvement du Christ, cet appel qui doit m'animer au plus profond de moi-même, l'Esprit de Dieu en l'homme, l'action de Dieu en l'homme et avec l'homme, hein. L'action théanthropique, théanthropos, théanthropique, action de Dieu en l'homme, avec l'homme. Oblation de moi-même. L'univers ne peut recevoir ce rayonnement de l'amour de Dieu que par son amour. S'il n'y a personne pour aimer, rien ne se fait, le monde se défait. S'il n'y a personne pour aimer, dit Zindel, rien ne se fait. Le monde se défait, le monde se décrée. Et c'est pourquoi il faut dire que le monde n'existe pas encore, ou la personne n'existe pas tant qu'elle n'est. Elle ne devient don. C'est ce robot, cet être robot préfabriqué, où il n'y a que le matériel, ce qui est immanent, dans la mesure où il y a une personne à aimer, le monde existe. Dieu n'est pas le monde, n'est pas le créateur de ce monde de larmes et de sang, de ce monde où la mort est la condition de la vie. Dieu en est innocent. Dieu n'est pour rien dans la mort, il n'est pour rien dans la souffrance, il n'est pour rien dans le mal, et ce cri d'innocence va retentir à travers toute l'Écriture jusqu'au grand cri de l'agonie de Jésus. Père, que ce calice s'éloigne de moi, jusqu'au grand cri qui est le dernier que Jésus pousse sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le monde, le mal est dans le monde contre Dieu et malgré lui, parce que ce monde-ci n'est pas le monde que Dieu veut. Et de même que nous sommes des ébauches d'humanité, que nous sommes rarement des hommes, que la plupart du temps nous nous laissons porter par la biologie, porter par l'univers, porter par les forces psycho-physico-chimiques qui se déploient en nous, l'univers, lui aussi, est en chantier. Il est uniforme et saint Paul nous avertit, il est dans les douleurs de l'enfantement. La création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement parce qu'elle a été soumise par l'homme à la vanité. Elle attend la révélation de la gloire du Fils de Dieu. Dieu est donc victime de ce monde. Ici, Zindel fixe son attention, notre attention sur le scandale de la croix. Il est la croix, le mystère de la croix est le centre où tout se joue. Toute l'histoire de l'humanité se trouve condensée dans ce point de l'histoire du salut. Le mystère de la mort et de la résurrection. Dans sa conférence, Zindel ensuite aborde donc le récit de sa rencontre avec cette femme. Je ne vais pas faire la lecture de ce qu'il dit dans cette conférence, je vais ne faire qu'un résumé pour évoquer donc un aspect de la vie, la prédication de Zindel. Zindel s'appuie très souvent sur les rencontres, les expériences qu'il a avec ces personnes. Pour lui, l'humanité telle qu'elle se présente à lui est source d'enseignement. Cette femme, donc, est issue d'une famille pauvre. Elle grandit dans un climat de tension, de violence même. Elle est privée dans son enfance de tout geste, témoignage d'affection, de très bonne heure. Il fallut qu'elle travaillât. Elle entra dans une fabrique de chapeaux. Elle rencontra un jeune homme qui lui fit la cour, qui lui dit pour la première fois ce mot merveilleux, « Je t'aime ». Elle crut à cet amour et l'épousa. Malheureusement, cet homme était donc non-croyant, et qu'il s'appliquait donc à rendre sa vie la plus triste. Elle s'aperçut à peine mariée que son mari était ivrogne, qu'il entrait ivre tous les soirs et qu'il la battait. Tout son bonheur s'écroule, elle n'a jamais eu de foyer. Femme, elle n'en aura pas donc davantage. Elle sait maintenant que son amour va être déchiré et qu'elle n'atteindra jamais le bonheur, nous dit Zindel. Et alors, dans cet extrême abandon, elle se tourne vers Dieu qu'elle commençait à découvrir. Elle le connaissait sans les mots, mais maintenant, il devient une présence. Elle se tourne vers lui avec une telle ferveur que son mari s'en aperçoit et furieux, jaloux de ce qu'elle trouve en Dieu, une consolation, une joie qu'il ne peut pas lui donner. Il veut piétiner cette foi, l'écraser s'il peut, mais comment le faire? Il n'y a qu'une manière de l'atteindre. C'est après qu'elle a donné le jour à un fils, lui interdit de le baptiser, lui interdire de lui communiquer sa foi. Ce garçon grandit, détourné systématiquement de son père, par son père, et devenant comme son père, méchant, bon, il y a d'autres expressions qui ne sont pas douées comme son père, il n'y a en lui aucun gouvernail. Il va de ville en ville, incapable de se fixer dans son travail. Il revient périodiquement auprès de sa mère pour qu'elle paie ses dettes et le revêt et le vêt de neuf, et qu'elle fait de très bonnes grâces sans commentaire sur ses désordres, car il y a longtemps qu'elle n'attend plus rien. Elle avait l'intelligence de la douleur, elle s'occupait de son fils. À 35 ans, son fils avait brûlé sa vie, il avait consumé toutes ses énergies, il était tuberculeux. À une époque où on ne savait pas encore guérir cette maladie, si mal qu'aucun sanatorium ne voulut le recevoir et qu'il échoua naturellement chez sa mère qui prit soin de lui le jour, la nuit, avec un dévouement silencieux, en souriant, exemplaire, n'ayant qu'un seul souci, et c'est là que Zindel accorde une attention particulière, qui se confie à lui en disant « Je ne demande rien. La seule chose, c'est qu'avant de mourir, il y a un réveil en lui, un réveil de conscience qui lui permette de ne pas rater sa mort, comme il a raté sa vie. » C'est tout ce qu'elle demandait, mais elle se gardait bien de parler à son fils de son état et de la mort prochaine et du Dieu qu'elle souhaitait qu'il rencontrât. Elle était là simplement une colonne de prière en attente de la grâce. Et un jour que ce fils racontait sa vie à un ami de sa mère, comme il le pouvait, dans sa faiblesse où il se trouvait, il dit, à un tournant de la conversation, « Je n'ai jamais eu de religion, mais maintenant, je veux avoir la religion de ma mère. » Qu'avait-il compris ? Il avait compris cette chose admirable, si essentiellement chrétienne, que Dieu est plus mère que toutes les mères, et que tout ce qu'il a, il y a de tendresse dans le cœur des mères, n'est que l'écho lointain de la tendresse infiniment maternelle de Dieu, que Dieu est plus mère que la Sainte Vierge elle-même, que Dieu est la mère éternelle, autant qu'il est le Père éternel. Et ne voulant pas demeurer en reste avec cet amour qui l'avait attendu si longtemps, d'un seul élan, il se donnait tout entier. Cette conversion. À travers donc cette personne, cette femme, toute tournée vers son fils, priant silencieusement, suppliant, le fils qui se convertit voit en sa mère précisément ce Dieu qui donne vie. Les douleurs de l'enfantement, l'enfantement à la vie, être libéré de ce mal, passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Se fit donc à travers le témoignage de cette femme, dont un d'elles décrit non seulement l'attitude, mais en perçoit toute la profondeur. C'est le propre du prêtre, du pasteur, qui ne reste pas à la périphérie des choses, de l'expérience et la description des événements, mais qui entre dans la compréhension d'une relation profonde entre deux êtres au cœur duquel, donc de cette relation, Dieu se manifeste. Et il se manifeste non pas ici comme un père, mais une mère qui donne naissance. J'ai compris, dit un d'elle, auprès de lui et auprès d'elle, ce que pouvait être la souffrance de Dieu. En effet, lorsque le Fils eut déclaré à sa mère qu'il voulait être baptisé, son amour à elle n'en reçut aucun accroissement. Elle l'aimait totalement, elle ne pouvait pas l'aimer davantage. Son amour simplement changea de couleur. Car son amour, comme le soleil qui traverse un vitrail, s'était toujours coloré des états de son fils. Son fils misérable, elle l'aimait dans la douleur. Son fils converti, elle l'aimait dans la joie, mais c'était le même amour. Ça va très loin, ça. Le même amour, soit dans la douleur, soit dans la joie. L'amour, qui est l'amour de Dieu. Et j'ai compris que l'amour de Dieu est semblable. C'est un amour qui prend la couleur de nos états. Mais c'est le même, éternellement et toujours infini. L'amour de Dieu en l'homme suit, épouse l'état d'âme de l'homme. L'amour de Dieu se communique non pas sur le plan strictement, exclusivement spirituel, en dehors de tout rapport à la création, à la chair. L'amour de Dieu se communique à travers une humanité. Et c'est cette humanité qui en reçoit l'influx, qui est saisie, touchée, restaurée. C'est la dignité totale de la personne, corps, âme, esprit, l'intégralité de la personne, de ce fils qui se convertit. Cette mère avait porté la misère de son fils. Elle avait souffert la misère de son fils plus que lui, avant lui, pour lui, en lui. Parce que, dans la pureté où elle vivait, elle ressentait les désordres de son fils beaucoup mieux que lui. Elle percevait sa déchéance et son indignité. Non pas pour elle, non pas parce qu'elle était blessée, humiliée, non pas comme un amant qui est blessé parce qu'il n'est plus aimé, mais parce qu'il se décréait, parce qu'il s'avilissait, qu'il était en dessous de lui-même, qu'il perdait la source de joie. Elle n'attendait rien, elle avait tout perdu, c'est-à-dire qu'elle avait tout donné. Son amour, simplement, était un amour d'identification qui, encore une fois, prenait la couleur de tous les états de son fils. Ainsi, l'amour de Dieu prend la couleur de tous les états de l'être créé. Il peut donc y avoir en Dieu une douleur. Il y a en Dieu une douleur autant qu'il y a en Dieu un amour. Non pas une douleur qui le défait, mais cette douleur d'identification avec l'être aimé. Tout ce qui atteint l'âme, l'agonie, la douleur, la maladie, la misère, la solitude, le désespoir, le péché, tout cela, Dieu le porte pour nous, en nous, avant nous, plus que nous, comme une mère, frappée par tous les états de son Fils parce qu'elle s'identifie totalement à lui. Je vous remercie de votre attention. Nous arrivons au terme. Nous poursuivrons donc ce thème. Il faut l'approfondir, hein. Nous essaierons de le voir sous différents angles. Cette souffrance de Dieu, et pour donner un sens, si possible, à cette souffrance de l'homme. Je vous souhaite une bonne semaine.